Oui, que le Seigneur puisse parler au milieu de nous ce matin. Il a déjà commencé à le faire, à parler à travers la présentation, à parler dans nos cœurs, à travers aussi les cantiques. Et eh bien, je me dispose à ce qu'il continue à parler par cette prédication. Si ce n'est pas le Seigneur qui fait l'œuvre, si ce n'est pas le Seigneur qui parle, eh bien, à quoi servirait-il que nous disions quelque chose? Ce qu'il nous faut, c'est recevoir la parole de Dieu et vraiment le bénir pour cette parole et pour le salut qu'elle nous fait connaître. Comment sommes-nous sauvés? C'est le thème de cette prédication. Et j'ai pris comme référence principale dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Eh bien, comment sommes-nous sauvés? Par la foi, en mettant notre espérance en Dieu qui nous sauve du début à la fin. Nous avons reçu la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu accès par la foi à la grâce de Dieu dans laquelle nous demeurons fermes. C'est cela qui est le fondement de notre salut, notre foi en ce que notre Seigneur et Sauveur a fait pour nous. Dieu est Créateur et Sauveur, il a l'initiative, c'est lui notre salut. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, nous recevons le témoignage de Dieu, notre Sauveur. Nous recevons et nous restons dans son salut par la foi. La foi, c'est vraiment ce qui, dans l'homme, correspond à la fidélité de Dieu. Foi et fidélité ont la même racine. La fidélité, elle est du côté de Dieu. Dieu est fidèle à sa création et à sa créature, l'homme qu'il a créé à son image. Et l'homme répond par la foi à la fidélité de Dieu. Elle lui a été manifestée, elle s'est intégrée dans la personne de Christ, cette fidélité. Elle a été jusqu'au sacrifice de la croix. Eh bien, lorsque dans notre cœur, il y a la réponse à la fidélité de Dieu, eh bien, cela s'appelle la foi. Et nous pouvons vraiment, à ce moment-là, être assurés de notre salut, parce que Dieu ne se dément jamais. Dieu est fidèle, et s'il a décidé et qu'il a proclamé notre salut, alors nous serons sauvés. Et cette grâce, l'apôtre dit, dans laquelle nous demeurons fermes. nous demeurons fermes dans la grâce de Dieu. Non seulement nous recevons le témoignage de Dieu, mais nous demeurons fermes dans cette grâce, dans son salut reçu par la foi. Vivre par l'Esprit, nous en avons parlé récemment, consiste à nous attendre à lui pour notre salut, dont nous avons goûté les prémices lors de notre conversion. Et il nous sauve chaque jour, en quelque sorte, on peut dire. Et à la fin, il nous sauvera éternellement. Notre salut, donc, commence lorsque nous recevons par la foi le témoignage de Dieu. Et il se met en œuvre dans notre vie lorsque nous persévérons, nous demeurons fermes dans la foi. Nous sommes vraiment sauvés par la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous confessons et croyons pour notre salut, pour recevoir le salut, qui est Jésus-Christ, qui efface nos péchés, qui nous lave, qui nous purifie instantanément de toutes nos fautes lors de notre conversion. Et à ce moment commence l'épreuve de notre foi. Et nous serons sauvés si à travers les épreuves, nous gardons et renforçons la connaissance de notre Sauveur, de Dieu qui nous sauve. Les apôtres ont lutté contre deux façons principales que nous avons d'abandonner la foi. Premièrement, nous détourner du salut tel qu'il est présenté à notre conscience, c'est-à-dire par la seule grâce du sacrifice expiatoire de Christ, ou deuxièmement, nous décourager quant aux promesses de Dieu et leur accomplissement. Donc nous trouvons pour le premier point que Paul s'inquiète, par exemple, pour les Corinthiens. Voyons, lorsque nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 15, Paul qui interroge, et il dit, or, au verset 12, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Voilà donc une pensée contraire à la prédication des apôtres qui avait émergé dans l'Église. Et l'apôtre reprend cela parce que ça l'inquiète. Pourquoi? Pour le salut de ceux qui annoncent une autre parole. Il avait commencé au verset 1 et 2 ce chapitre. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Il est donc pour l'apôtre capital de maintenir l'évangile dans sa pureté et dans sa totalité, que cet évangile ne soit pas changé par un enseignement qui viendrait comme cela, dont on ne sait d'où, mais qui remettrait en cause ses fondements. Pareil, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, versets 3 et 4, Paul, en fait, a beaucoup développé ses arguments aux Corinthiens, qui étaient des chrétiens, manifestement, qui avaient pas mal de difficultés. Alors, il leur dit, versets 2 et 3 du chapitre 11, « Ah, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, l'apôtre peut être jaloux parce que il voit que les chrétiens sont en train de se détourner du Christ qu'il leur a présenté. Ils sont en train de se détourner de l'Évangile. Et alors, par des personnes qui, il le dit au verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Oui, il est vraiment inquiet pour l'Église, parce que la parole de l'Évangile est remise en cause et changée. Or, il insiste à d'autres occasions qu'il a reçu du Seigneur lui-même l'Évangile et il va jusqu'à dire « mon Évangile ». Il n'y a qu'un seul Évangile et l'apôtre avait été établi pour dire ce qu'est l'Évangile. Et si quelqu'un vient annoncer un autre évangile, eh bien forcément cela bouleverse cet apôtre. Il était aussi inquiet pour les Galates. Au chapitre 1, versets 6 à 8, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer ou renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire rejeté. Au chapitre 3, versets 1 à 3, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvu de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Oui, l'apôtre était inquiet de voir surgir de tous côtés, hein, toutes sortes d'enseignements qui remettaient en cause l'évangile qu'il savait être la seule prédication du salut. Et ce que nous voyons aussi, c'est que ces enseignements divergents et corrupteurs sont portés par des personnalités charismatiques, qui ont un abord puissant et convaincant et qui emportent l'adhésion par leur puissance de conviction. Alors il est difficile de leur résister et il fallait toute l'autorité de l'apôtre pour faire face à ces hommes qui se recommandaient eux-mêmes, comme il dit, et qui allaient de lieu en lieu en prêchant un autre évangile. Alors, bien sûr, la conviction, la puissance de conviction n'est pas l'apanage des faux docteurs. Elle habite aussi les vrais docteurs, mais pas souvent de façon aussi spectaculaire que lorsque certains se lèvent avec une fausse doctrine. Il leur faut vraiment beaucoup de puissance pour justement détourner les fidèles de leur vocation première. Alors, progresser dans le salut, c'est donc professer la saine doctrine qui n'est pas une orthodoxie morte, mais qui est une doctrine vivante et opérante qui nous nourrit chaque jour de Jésus-Christ. Rester sur le fondement de l'Évangile, c'est cela, c'est rester en Jésus-Christ qui nous fait connaître Dieu, qui nous amène à Dieu, qui nous fait grâce et qui nous instruit de la vérité. Mais il y a une autre source d'inquiétude pour l'apôtre, c'est le découragement, la lassitude qui peut s'emparer des âmes. Parce que l'épreuve de l'opposition, de l'oppression, peut avoir raison des cœurs tendres. Et de même que l'épreuve du temps, l'épreuve d'une attente déçue, peut affaiblir et semer le doute. Et là, nous voyons que Paul s'inquiétait pour les Thessaloniciens. Au chapitre 3, versets 1 à 5, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant de rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Aussi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Voyez ici, l'apôtre s'inquiète pour une autre raison, parce qu'il y a eu une grande tribulation, une grande opposition à la parole de Dieu dans le contexte des Thessaloniciens. Et nous voyons ici qu'entre savoir et expérimenter, il y a un écart. Il dit, vous savez que nous sommes destinés à cela. Oui, il le savait, mais l'apôtre craint quand même que les chrétiens ne comprennent pas ce qui leur arrive et finissent par abandonner. L'épreuve de l'opposition radicale peut réellement mettre à mal la foi. Et alors ce serait pire sans les avertissements et sans que le Seigneur ou les apôtres aient prévenu que cela allait arriver. Là, nous serions complètement démunis. Tandis que le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Hein, Jean chapitre 16, verset 33. Le Seigneur nous a avertis, et béni soit Dieu qu'il nous ait avertis, parce que s'il ne nous avait pas avertis, alors nous ne comprendrions rien à cela. Et bien sûr, le propre témoignage de Jésus est notre meilleure force pour faire face à l'épreuve, hein, comme l'Épître aux Hébreux nous y invite, au chapitre 12, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Oui, l'intensité de l'opposition peut nous affaiblir et finalement nous amener à nous poser la question, mais est-ce que Dieu est véritablement avec nous? Est-ce qu'il est vraiment celui qui est à l'œuvre pour sauver son peuple, ou est-ce que nous avons été victimes d'une illusion? Eh bien, les apôtres nous disent, en donnant leur propre témoignage et celui de Jésus lui-même, que nous pouvons, avec assurance, au sein de l'opposition, au sein de l'oppression, tenir ferme, garder notre confiance pour rester dans le salut de Dieu. Mais il y a aussi, on peut dire le décalage dans la réalisation des promesses de Dieu. Et cela a nécessité donc l'exhortation de Pierre, dans 2 Pierre, donc au chapitre 3, verset 9. Eh bien, Pierre se sent la responsabilité de dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On sent aussi la même préoccupation chez Paul dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2, lorsqu'il dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est cela qui est le point de mire, c'est de l'espérance chrétienne, c'est l'avènement du Seigneur, c'est le Seigneur que nous attendons pour son règne. Et donc pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Oui, ne vous laissez pas ébranler par une fausse doctrine qui pourrait facilement prendre racine vu votre impatience à voir se réaliser les promesses de Dieu. Et combien on cherchait, on peut dire, à précéder le temps en donnant des prophéties, des explications, en essayant de comprendre les choses, l'avancée de l'histoire humaine, etc. Certains vont même trop chercher dans les astres, savoir ce qui est en train de se passer pour... dire, ben oui, c'est maintenant le temps de l'avènement du Seigneur. Alors le Seigneur semble tarder, et pourtant les apôtres, et c'est là dans ce contexte que Pierre dit, mais ne vous inquiétez pas aux yeux du Seigneur, devant le Seigneur un jour, et comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Tenez bon, le Seigneur va accomplir sa promesse, elle est certaine. Donc le découragement dans l'attente du royaume peut aussi contribuer à l'abandon de la foi. Nous sommes donc, par les apôtres, exhortés à, premièrement, ne pas nous détourner du fondement de l'évangile qui est mettre notre confiance en Jésus-Christ crucifié pour nous, et de ne pas nous décourager concernant l'accomplissement des promesses de Dieu et l'avènement de notre Seigneur. Et là, si nous restons fermes dans cette foi, on peut dire de base, et dans cette espérance certaine, alors nous serons sauvés. L'acquisition du salut se fait par donc un travail de l'âme éprouvant. L'apôtre dit que c'est Pierre qui dit « Le juste se sauve avec peine. » De la même façon que Paul dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc il y a un travail à faire dans notre âme pour rester ferme. Mettez en œuvre votre salut, travaillez à votre salut, dit aussi l'apôtre aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. « Travaillez ou mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Il y a aussi, bien sûr, tout le sujet de nos épreuves personnelles. Mais ici, Dieu veut nous apprendre que, en soi, la voie du salut est éprouvante. Marcher dans l'espérance chrétienne, c'est une épreuve, et seront sauvés ceux qui auront supporté cette épreuve jusqu'au bout, victorieusement, qui seront restés dans la foi, qui ne se seront pas laissés détourner par toutes sortes d'enseignements, plus convaincants les uns que les autres quand on les entend, mais quand on les éprouve par rapport à la parole de Dieu et à l'évangile, qui détournent de la foi, et puis qui ne se seront pas laissés décourager par le temps qui passe et qui passe, et cette attente qui pour l'instant n'est pas encore récompensée de tous les fidèles, qui est l'avènement de notre Seigneur. Alors, soyez gardés, progressez dans la foi, restez fermes sur cette justification par la foi, et avancez dans cette espérance, parce que, au bout, il y aura le salut éternel. Amen.